Et quel matériel utilisez-vous pour les expériences?
En fait, on est ce qu'on appelle des observateurs. Parce que tu ne peux pas faire, comme tu fais en chimie, tu vas faire des réactions chimiques et tout ça, tu ne peux pas faire une étoile dans une éprouvette. Ce n'est pas possible. Parce que pour arriver à faire une étoile, pour arriver à l'étudier, arriver à atteindre les températures, les gravités, tout ça, il te faut de la masse. Et de la masse, tu auras beau mettre toute la masse de la Terre, ça ne fera jamais une étoile. Donc tu ne peux pas fabriquer une étoile en éprouvette, tu ne peux pas fabriquer un univers en laboratoire, c'est pas possible. Donc les astronomes font des observations, je vous ai dit tout au début, nos moyens d'étude c'est beaucoup la lumière. Donc du coup on va développer des moyens de d'abord collecter la lumière, ça s'appelle des télescopes, on utilise ou lunettes astronomiques. Les lunettes astronomiques et les télescopes, c'est deux instruments qui font à peu près la même chose. Et il y en a un qui est équipé avec des lentilles. Les lentilles, c'est les pièces de verre que j'ai sur les yeux, donc qui sont soit convexes, soit concaves. Et la lumière passe à travers, tu mets ton œil derrière et puis tu vois, voilà. Si vous avez déjà peut-être utilisé des jumelles pour regarder, ben voilà, c'est équipé de lentilles. Une lunette astronomique, ça fonctionne optiquement comme une paire de jumelles. Mais comme la lumière, elle va passer à travers les lentilles, s'il y a des défauts dans les lentilles, ça va dégrader l'image qui est derrière. Donc comme nous, on veut essayer d'avoir les images les meilleures possibles, eh bien, on a eu l'idée de remplacer les lentilles par des miroirs. Et c'est la même chose, on collecte la lumière et puis on forme une image. Et ça s'appelle du coup des télescopes. Et donc les télescopes, ils ont deux fonctions. Il faut s'agrandir les yeux. Parce que j'espère que vous avez déjà tous regardé le ciel la nuit. Hein, si vous ne l'avez pas fait, faites-le ce soir, il fait beau. C'est joli le ciel, on voit des trucs, on se dit « Ah ben tiens, c'est quoi ça ?» Hein, si vous regardez pas trop tard ce soir, juste à la tombée de la nuit, vous pourrez voir Jupiter assez brillant. Alors là, on est ici, donc le soleil il va se coucher là-bas. Quand le soleil sera couché, à peu près dans cette direction-là, vous aurez Jupiter. Un point brillant, le point le plus brillant dans le ciel, dans cette direction-là. Et puis, vous allez, la direction que je prends par rapport au collège, donc dans cette direction-là, à peu près à cette hauteur-là, vous aurez Jupiter ici. Vous allez tracer comme une ligne comme ça pour aller d'ouest en est. Donc là, vous aurez Jupiter. Là, vous en avez une un peu brillante, mais moins, ce sera Saturne. À côté d'une étoile très brillante qui s'appelle Antares. Et puis, à peu près là, à peu près comme ça, vous aurez Mars qui apparaît rouge en ce moment. Donc, vous voyez, c'est très beau. Donc, observez le ciel avec vos yeux. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc, les astronomes, en fait, pourquoi ils utilisent des lunettes et des télescopes? C'est pour s'agrandir les yeux. Parce que notre œil, il va collecter le petit rond noir là, qu'on a au centre de nos yeux, ça s'appelle la pupille. Voilà, toute la lumière qui passe là-dedans, il ne peut pas en passer plus. Donc, les télescopes, ils ne vont jamais rapprocher les objets. Ils vont collecter plus de lumière pour arriver à avoir des objets plus faibles. Donc, un télescope, ça collecte la lumière, mais aussi ça forme une image. Parce que les miroirs, c'est pas comme les miroirs de salle de bain où vous voyez, voilà, comme ça. Non, c'est des miroirs qui collectent la lumière et qui sont concaves aussi, pour la plupart, concaves ou convexes, n'importe. Et qui vont donc, toute cette lumière qui est arrivée sur le miroir, ils vont la concentrer en un point. Et ce point, si vous mettez votre œil derrière un télescope, ce sera votre œil. Et donc, on utilise les télescopes qui sont conçus dans les laboratoires. Mais on ne met pas l'œil derrière, sauf pour se faire plaisir. Parce que notre œil, il n'est pas capable de faire des images qu'on va pouvoir échanger. Si c'est vous qui regardez dans le télescope, vous voyez quelque chose que moi, je ne vois pas. Puis on ne peut pas échanger notre image. Donc on met derrière des caméras, des photomètres, des polarimètres, des spectromètres, etc. Des trucs comme ça, qui vont enregistrer la lumière, qui vont nous permettre après, nous, de récupérer ces images et de les analyser, de les traiter, tout ça, pour arriver à étudier l'objet qu'on veut. Donc c'est beaucoup télescope, instruments, caméra, tout ça derrière, mais aussi après l'ordinateur, sur les programmes de traitement d'images, sur les programmes de modélisation des objets, etc.
Est-ce que vous travaillez en équipe ?
On travaille en équipe, il y a très très peu de... Il y en a quelques-uns, parce que en fait les astronomes, un astronome, là je vous ai parlé d'un petit peu tout, mais un astronome il ne travaille pas dans tout, il a son domaine. Tu as des grands domaines, il y a les astronomes qui vont travailler sur le système solaire. Donc c'est ce qu'on appelle les planétologues. Après, il y a des astronomes qu'on va appeler les physiciens stellaires, parce qu'eux, ils vont étudier les étoiles qu'on voit dans la galaxie et tout ça. Après, il y a les galacticiens. Ceux qui vont étudier, leur objet d'étude, ce sera notre galaxie, dans son ensemble, pour voir le mouvement des étoiles, la forme, etc. Et puis après, il y a les extra-galacticiens, ceux qui étudient les galaxies au-delà de la nôtre. Comme c'est très très loin, dans ces galaxies-là, sauf les galaxies les plus proches, mais il n'y en a pas beaucoup, dans ces galaxies lointaines, tu vois un point lumineux sur le ciel, c'est tout. Tu ne peux plus regarder les étoiles individuellement dans cette galaxie. Donc c'est beaucoup plus loin et ils utilisent d'autres méthodes. Elles ont plein de noms, Il y en a plusieurs centaines de milliards. Alors celle qu'on voit à l'œil nu, la seule qu'on voit à l'œil nu dans l'hémisphère nord, c'est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède qui est dans la direction pas loin du pôle nord pour nous. Et puis autrement, dans l'hémisphère sud, il y a deux petites galaxies satellites que l'on voit, c'est les nuages de Magellan. Le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, c'est des galaxies qui sont satellites de notre galaxie à nous. Ah oui, et donc on travaille, il y a certains astronomes qui vont être ce qu'on appelle des théoriciens. Donc par exemple, quelqu'un comme Newton, mais c'est même pas vrai. Il y a certains théoriciens qui travaillent un peu individuellement. Mais autrement, c'est toujours en équipe. Pour construire les instruments dont je parlais, non seulement il faut des chercheurs, mais aussi il faut des opticiens, il faut des mécaniciens, il faut des électroniciens, des informaticiens. En fait, dans les labos de recherche, il y a plein de métiers différents. Parce que pour construire ces instruments, ce n'est pas des instruments qu'on achète dans le commerce, c'est des instruments qu'on va développer exprès pour étudier tel objet ou tel autre. Donc du coup, on va travailler avec tous ces gens-là. Des ingénieurs, des techniciens, il y a plein de niveaux et plein de métiers différents dans les labos de recherche.
C'est quoi une galaxie satellite ?
Galaxie satellite,
je vous ai parlé là, dans la mise en place des connaissances, je ne suis pas allée au-delà du système solaire parce que les observations qu'ils faisaient à l'époque, ce n'était pas possible. Donc notre système solaire, il y a le Soleil qui est ici, puis toutes les planètes qui tournent autour. En fait, ce système appartient à quelque chose qu'on appelle la galaxie, qui est un ensemble d'étoiles. Quand tu le regardes de face, ça ressemble à ça. Et quand tu le regardes de profil, donc comme ta main, tu vois, quand tu regardes ta main de face, tu vois une certaine chose. Quand tu la regardes de profil, tu vois autre chose. Quand tu regardes la galaxie de profil, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Avec un bulbe qui est là, qui est ici, qui a une concentration d'étoiles très élevée, et puis un disque, on appelle ça disque parce que l'épaisseur ici est bien plus petite que l'extension, comme ça. Et ce disque, quand tu le regardes de face, alors on ne peut pas le faire, hein. Je vous ai dit qu'on ne pouvait même pas sortir du système solaire. L'image qu'on a de notre galaxie, c'est les mesures qu'on a faites, les observations qu'on a faites, qui nous ont permis de déduire la forme de notre galaxie. Et c'est aussi parce qu'on voit plein d'autres galaxies dans l'univers, et donc on s'est dit, la nôtre, elle doit ressembler à ça. Donc, avec des bras spiraux comme ça. Et tout ça, c'est à peu près entre 100 et 300 milliards d'étoiles. Dans notre galaxie, il y a quelques centaines de milliards d'étoiles. Et notre Soleil, ici, il est à l'extérieur, relativement à l'extérieur, et entre deux bras principaux. Donc, si tu le regardes comme ça, il est à peu près là. Et donc, les galaxies satellites, c'est des petites galaxies, plus petites. Elles ont à peu près 1 à 5 milliards d'étoiles, au lieu d'en avoir 100 ou 200. C'est des petits objets qui ont une trajectoire autour de notre galaxie. Parce que du moment que ça, c'est une grosse masse, la loi de la gravitation, elle s'applique partout dans l'univers. Donc ces galaxies, comme elles sont petites, elles sont gravitationnellement liées à la nôtre. C'est-à-dire qu'elles ont des trajectoires qui vont être quelque chose comme ça, autour de notre galaxie. De même que le Soleil, en fait, les satellites du Soleil, c'est les planètes. Et ça, les satellites de la Terre, c'est la Lune, etc. Satellites, ça veut dire qu'ils tournent autour, qui est gravitationnellement lié, et qui va tourner autour de notre galaxie. Une trajectoire qui sera une ellipse.
Que fait-on à l'Observatoire de Lyon ?
Alors, j'ai des collègues qui travaillent dans différents domaines. Moi, je suis instrumentaliste infrarougiste, c'est-à-dire que je travaille au développement d'instruments d'observation qui sont dédiés à l'infrarouge. Alors, vous n'avez pas vu en physique encore les couleurs. Vous connaissez les couleurs. Vous avez déjà vu l'arc-en-ciel. Donc, vous savez que la lumière du soleil, qui nous apparaît blanche comme ça, si vous la dispersez, vous voyez toutes les couleurs, depuis le violet jusqu'au rouge. Eh bien, en fait, avant le violet, c'est pas qu'il n'y a rien. C'est juste que nos yeux ne sont pas capables de voir. Si on avait des yeux qui soient sensibles dans une autre couleur, avant le violet, ça s'appelle... Qui donne les coups de soleil ? Les UV, ça s'appelle ultraviolet. UV, c'est ultraviolet. Les ultraviolets, avant, il y a les rayons X. Encore avant, il y a les rayons gamma. Les rayons gamma, ils sont très embêtants parce que c'est eux qui font les problèmes de la physique nucléaire quand il explose une radioactivité. C'est de la lumière, mais nos yeux ne sont pas capables de la voir. Et puis pareil, dans le côté rouge, ça ne s'arrête pas. C'est juste parce que nos yeux ne sont pas capables de voir après le rouge. Après le rouge, il y a l'infrarouge. Après, il y a les micro-ondes. Micro-ondes, vous connaissez. Hein ? Quand vous réchauffez quelque chose, ben vous utilisez de la lumière. Vos yeux ne sont pas capables de le voir, mais c'est de la lumière. Après, c'est le domaine radioélectrique, attention, pas radiophonique, etc. Voilà, moi je travaille en infrarouge. Et puis, il y en a qui travaillent, alors j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur le développement d'instruments, mais de spectroscopie en visible. Moi, c'est des caméras en infrarouge. Il y en a qui travaillent sur des techniques qu'on appelle d'optique adaptative pour essayer de s'affranchir des turbulences de l'atmosphère. Puis, il y en a qui travaillent dans la physique des galaxies. Il y en a qui travaillent en cosmologie, c'est-à-dire qu'ils essayent d'expliquer l'univers dans son ensemble. Il y en a qui travaillent à la formation des planètes. Les planètes se forment en même temps que les étoiles et arriver à comprendre comment on arrive à fabriquer des planètes à partir des protos, ce qu'on appelle les proto-étoiles.
À quoi sert exactement votre métier ?
L'astronomie, c'est ce qu'on appelle une science fondamentale. C'est-à-dire que c'est une science qui n'a pas d'application dans la vie de tous les jours. Donc ces sciences fondamentales, c'est les maths, c'est la physique théorique, c'est l'astrophysique, etc. Ça n'a pas d'application dans la vie de tous les jours. Mais c'est absolument indispensable pour faire avancer les connaissances. Et le propre de l'homme, c'est d'essayer d'améliorer continuellement sa compréhension du monde dans lequel il vit. Avant, on va prendre une science qui n'est pas fondamentale, qui est la médecine. C'est une science qui est appliquée, mais avant... la médecine, on faisait, t'étais malade, ben c'est parce que t'avais fâché les dieux, parce que y en a un qui t'avait jeté un sort, et puis progressivement, on s'est amélioré, puis on s'est rendu compte qu'on vivait avec des microbes, avec des bactéries, avec des virus, avec des choses comme ça, et que ça avait une incidence sur notre corps. Eh bien, les sciences fondamentales, elles ont pour vocation de faire avancer les connaissances, et pour ça, elles ont besoin continuellement de pousser plus loin nos compétences, mais nos compétences non seulement dans les sciences fondamentales, mais dans les sciences annexes, comme par exemple en optique, puisque nous on utilise des télescopes, en optique, en traitement du signal, en électronique, tout ça, on va pousser, on veut toujours une technologie de pointe dans l'astrophysique, enfin dans toutes les sciences fondamentales. Donc du coup, ces sciences fondamentales, elles ont besoin de technologies de pointe, donc elles vont développer ça. Et ces technologies, c'est de la recherche appliquée qui, là, a des retombées sur la vie de tous les jours. Je vais vous prendre un exemple. Les astronomes, ils ont voulu améliorer la qualité des images. Sauf que, parce que les objets, ils sont toujours lointains. Même avec les télescopes, une étoile, ça restera un point. Donc, on veut essayer d'avoir les meilleures données possibles sur cet objet. Sauf qu'on fait des observations depuis le sol. Et entre le sol et l'étoile, il y a une immense distance. Mais tout près de nous, il y a l'atmosphère. Et l'atmosphère, elle nous gêne parce qu'elle est chaude, parce qu'elle est turbulente, parce qu'elle a des variations de vent, d'hygrométrie, de quantité d'eau dans l'atmosphère, etc. Et ça brouille nos images. Donc, à partir des années 1950, les astronomes se sont dit, bon sang, la seule façon d'avoir des images correctes, c'est de passer au-dessus de l'atmosphère. Alors, il y a une autre catégorie qui pensait à ça, non pas pour aller améliorer ces images, d'objets lointains, c'était les militaires. Eux, ils ont voulu passer au-delà de l'atmosphère pour aller espionner le voisin. Mais les militaires, ils partagent pas beaucoup leur technologie. Les astronomes, ils s'en fichent. Les astronomes, nous, on voulait arriver à envoyer des satellites au-delà de l'atmosphère, donc il fallait apprendre à le faire. Donc on a développé quelque chose qui, progressivement, a pris de plus en plus d'ampleur et est devenu ce qu'on appelle maintenant l'astronautique. Et maintenant l'astronautique, parce que dans les années 50, quand les astronomes voulaient essayer d'envoyer un satellite hors de l'atmosphère, on disait, putain, les astronomes, non mais franchement, ils dépensent des sous pour rien, jamais ça servira à autre chose. Maintenant, je suis certaine que vous avez tous un téléphone portable dans votre poche. Si les astronomes n'avaient pas voulu développer la technologie d'envoyer quelque chose dans l'espace, ben vous n'auriez pas votre téléphone portable. On n'aurait pas développé l'astronautique comme elle est développée maintenant. Et ça, on peut multiplier à l'infini. Je peux prendre un autre exemple en physique qui a eu une application, non pas comme ça sur l'électronique, mais j'ai dit le téléphone portable, je peux parler du GPS ou je peux parler des tas de trucs comme ça, la télévision, tout ça, tous les satellites. Maintenant, les astronomes, il y a peu de satellites autour de la Terre qui sont des satellites astronomiques, alors qu'il y a beaucoup de satellites qui sont commerciaux. On prend un autre exemple, Marie Curie. Quand elle a développé sa théorie du radium, de la radioactivité et tout ça, c'est pareil. Les gens à l'époque disaient « mais elle est complètement folle ». Elle se bougeait des tonnes et des tonnes d'un matériau qu'on appelait la pêche blinde pour arriver à comprendre pourquoi ce truc, il faisait bouger son compteur. Les hommes disaient « mais ça sert à rien ». Hélas, tous les gens qui ont des cancers maintenant, c'est bien dommage, mais n'empêche qu'ils sont très contents que Marie Curie ait fait ça. Parce que tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, c'est grâce à elle. Et là, on pourrait multiplier à l'infini ce genre de choses. Donc la science fondamentale, quel que soit son domaine, elle n'a pas d'application tout de suite. Mais en fait, ça permet d'ouvrir sur des technologies qui seront exploitées 20 ans, 30 ans, 50 ans après.
Avec combien de personnes travaillez-vous ?
Tous les jours, je travaille avec 4 ou 5 collègues à l'Observatoire de Lyon. Par contre, dans le projet de recherche que j'ai, qui est un développement de télescopes et caméras en Antarctique, là, on travaille avec des Italiens, des gens de Nice, des collègues de Nice, de Marseille, de Paris. Donc, en tout, ça doit faire, je ne sais pas, au moins une cinquantaine de personnes, plus ou moins proches, selon ce qu'on fait.
Souhaitez-vous qu'il y ait plus de femmes dans votre domaine et pourquoi ?
Oui, vous l'aurez compris avec tout ce que je vous ai dit quand même. Parce que les sciences, en fait, on a l'idée que le développement des sciences s'est fait uniquement avec des idées des hommes. Et ça, c'est complètement faux. Peut-être que parce que vous aviez parlé de faire à la fin de l'année un truc sur... Donc là, à ce moment-là, je vous développerai de plus, je vais répondre donc rapidement. Il y a toujours eu des femmes, sauf que l'histoire, elle est écrite par les hommes. Et du coup, les femmes, elles ont été oubliées. Je vous donnerai des exemples de femmes qui ont fait énormément de choses et juste, elles sont pas restées dans les livres, elles sont pas restées. Et du coup, on les connaît très peu. Et pourtant, il y en a eu plein. Et pareil, dans tous les domaines, hein, pas seulement en astronomie. Mais les sciences fondamentales dont je parlais tout à l'heure, la physique, les maths, l'astrophysique, la physique nucléaire, enfin des tas de choses comme ça, les filles sont très peu présentes. Mais les filles sont très peu présentes. En fait, c'est pas parce qu'il existe des cerveaux bleus ou il existe des cerveaux roses. Ça, on a démontré que c'était faux. Les filles ont exactement les mêmes capacités que les garçons. Et les garçons ont exactement les mêmes difficultés que les filles. Sauf que tout l'ensemble de la société, de l'éducation, des médias, des jouets, tout ça, ils nous impriment bien profondément dans le cerveau, continuellement, que les filles, elles sont bonnes pour ceci. Et les garçons, ils sont bons pour cela. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et on arrive à quelque chose en astrophysique, par exemple, au CNRS, qui est notre employeur. Eh bien, en astrophysique, on est 18%, même pas, 17% maintenant, de femmes. C'est pas normal. Les filles ont exactement les mêmes capacités que les garçons. Et c'est très dommage parce que, en fait, bon, je parle de l'astronomie, mais je pourrais parler de plein de domaines. Hein. De la physique, de l'informatique, de la médecine. Enfin, dans la médecine, ça va encore, il y a quand même pas mal de femmes. En fait, la société, l'humanité a devant elle de gros soucis. D'approvisionnement en eau, des fournitures d'énergie, d'alimentation de tous les hommes, du problème de réchauffement climatique. On a de gros défis à relever. Et ça, il y a besoin de tous les cerveaux pour ça. C'est vraiment stupide de se priver des capacités de la moitié de la population sous prétexte que les filles, on reste archaïque, les filles n'ont pas les capacités d'être scientifiques. C'est complètement faux.
Pourquoi aimez-vous votre travail ?
Pourquoi j'aime mon travail? Effectivement, je suis passionnée. Je vous ai dit, hein, je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai dit, quand je serai grande, je serai astronome. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment profondément marquée, de regarder le ciel et de me dire, c'est quoi là-haut? Mais, déjà pour la lune, pour le soleil, mais surtout la nuit, de regarder ces objets, puis de me dire, quand j'étais toute gosse, de me dire... Mais à quelle distance c'est? Et comment ça a été là? Et pourquoi c'est comme ça? Et même encore maintenant, en fait, évidemment que je regarde le ciel d'une autre façon, mais rien que quand je sors du cinéma ou d'un truc le soir, ou même le soir en hiver, quand je sors du travail et qu'il fait nuit, je sors d'un bâtiment, je regarde le ciel. Tout le temps. À Lyon, hein, souvent, mince, il ne fait pas beau. Mais autrement, c'est « Ah, bah tiens, oui, oh là, c'est joli. Oh, mais elle est déjà levée. » Et puis, c'est super, l'astronomie, ça n'appartient à personne. Tout cet univers, c'est magnifique quand tu regardes les images de formation des étoiles. Mais on aurait demandé aux hommes de nous dessiner les cocons qui forment les étoiles, on n'aurait jamais envisagé quelque chose d'aussi varié, d'aussi beau, d'aussi...
Quelle est pour vous la découverte scientifique la plus importante?
Il y en a plein, en fait. Je vais avoir droit à deux, quand même. Deux sur ces derniers temps. La plus importante, c'est la détection des exoplanètes, de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Ça fait très, 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 très longtemps qu'on a cette idée. Mais en science, tant que tu n'as pas prouvé les choses, tu ne peux pas dire que c'est vrai. Il faut l'avoir prouvé pour le faire. Et Fontenelle, par exemple, au moment de Giordano Bruno, il disait aussi, il parlait de pluralité des mondes. Donc pour lui, il y avait aussi d'autres planètes autour d'autres étoiles. Mais le premier qui a enfin détecté, il a vraiment enregistré le signal d'une planète, c'est Michel Mayor, un astronome suisse avec Didier Queloz, son étudiant, en 1995. Ça y est, maintenant on a la preuve. Et maintenant, on en est à presque 4000, donc on sait que des planètes, il y en a partout dans l'univers. Et ça, c'est super important, parce que du coup, maintenant, on veut savoir s'il y en a qui abritent la vie. Ah non, on ne sait pas encore, sinon je vous l'aurais dit. Mais on ne sait pas, on est sûr qu'il y a des planètes. Maintenant, on a fait même un pas supplémentaire avec un instrument qui s'appelle Sphère, qui a été construit par les collègues de Grenoble avec, entre autres, des collègues de Lyon. On a détecté des planètes avec des atmosphères autour. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'atmosphère que la planète est propice à la vie. Vénus, notre voisine, elle a une atmosphère, mais l'effet de serre s'est emballé, il fait 480 degrés à la surface. Vie strictement impossible. On a la certitude qu'il y a des planètes, on a des planètes avec des atmosphères, il reste encore deux pas à franchir, trouver des planètes avec des atmosphères qui soient propices à la vie, et puis détecter la vie. Et puis l'autre découverte qui est, je pense, très très importante, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Ça aussi, c'est très très important, ça va changer notre vision de l'univers.
Pensez-vous qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre?
Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? D'abord, je vais te rappeler qu'on est une étoile sur 300 milliards. Maintenant, avec la détection des exoplanètes qu'on a faites, eh bien, on estime qu'il y a au moins une étoile sur trois qui a des planètes autour. Donc ça veut dire que dans notre galaxie, tu as au moins 100 milliards d'étoiles qui ont des planètes autour. Et dans l'univers, tu as des centaines de milliards d'étoiles, milliards de galaxies, qui chacune contiennent des centaines de milliards d'étoiles avec des planètes autour. Pour l'instant, je ne peux pas te dire, on n'a pas détecté, je peux te le dire avec certitude, on n'a pas détecté de planète qui soit habitée, qui ait développé de la vie. La vie, ce n'est pas forcément quelque chose qui ressemble à ça, hein. Ça peut être complètement autre chose. Mais on n'a pas détecté d'endroit ailleurs dans l'univers où il y aurait de la vie. Par contre, moi, mais maintenant c'est ce que je pense qu'il y a tellement de planètes dans l'univers. L'univers existe depuis tellement longtemps, je pense, hein, qu'il y a de la vie ailleurs. Mais je ne peux pas le démontrer maintenant. L'avenir nous le dira, le jour où on aura détecté. Peut-être qu'on ne le détectera jamais. Auquel cas, on dira, on n'a toujours pas détecté.
Est-ce possible que dans l'univers, il y ait une galaxie identique à la nôtre?
Des galaxies strictement identiques? Non. Non. Tu n'as pas une autre Terre ailleurs? Non. parce que les conditions sont chaque fois un petit peu légèrement, très légèrement différentes. Il y a plein de galaxies qui ressemblent à la nôtre. Là, je peux te montrer plein de galaxies qui ressemblent à la nôtre. Mais ce ne sera pas strictement identique. Alors, attention, les exoplanètes, là, je vous ai placé le Soleil ici. Il faut voir les distances. Hein. D'un bord à l'autre de la galaxie, la distance d'un bord à l'autre de la galaxie, c'est-à-dire depuis ce bras-là jusque ce bras-là, c'est 100 000 années-lumière. L'année-lumière, c'est une distance. C'est pas un temps. C'est la distance que va parcourir la lumière pendant un an. Et cette distance, une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc tu as 100 000 fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous voyez que ça, eh ben, c'est pas du tout commode à écrire. Ça, c'est rien qu'une année-lumière. Hein. 10 000 milliards. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un système pour faire mieux. Et je vais l'écrire comment? Avec combien? 13. Donc une année-lumière, c'est 10 puissance 13 km. Donc pour en revenir à tes planètes là, dans les galaxies extérieures, le volume que l'on a prospecté pour détecter les exoplanètes, c'est un volume qui est tout petit là autour. Tout petit, tout petit, tout petit. On a à peine vu ça. Alors c'est beaucoup en kilomètres. Mais dans notre galaxie, on n'a pas actuellement les capacités de détecter les exoplanètes, les planètes autour d'autres étoiles, même dans les confins de notre galaxie. Et la distance entre nous et la galaxie d'Andromède, c'est 2 millions d'années-lumière. Donc on est complètement incapable de détecter les exoplanètes. Donc on est complètement incapable de détecter les exoplanètes dans d'autres galaxies. Mais notre galaxie, il n'y a pas de raison qu'elle soit particulière. Et la galaxie d'Andromède, par exemple, ressemble beaucoup à la nôtre, mais on est incapable de détecter. Donc, il n'y a pas deux galaxies strictement identiques.
Combien d'années faut-il étudier pour être astrophysicien?
Il ne faut pas que vous ayez peur, parce que, déjà, je vais dire, si vous choisissez une filière qui vous intéresse, eh bien, vous réussirez beaucoup mieux que si vous prenez quelque chose en disant « Oh ouais, non, je sais pas, je vais prendre ceci ou cela. » Il faut vraiment suivre vos envies, parce que l'envie, c'est vraiment le meilleur des moteurs pour apprendre. Ceci dit, pour faire astrophysicienne, il faut que tu fasses un bac scientifique. Après, tu as deux possibilités. Soit tu vas à l'université et tu fais ce qu'on appelle une licence. Ça dure 3 ans. Licence de physique. C'est ce qui ira mieux, ou de maths si tu veux. Et puis après, ce qu'on appelle un master, ça te fait 2 ans supplémentaires. Donc tu arrives à 5 ans après le bac. Mais tu peux aussi aller dans ce qu'on appelle les écoles d'ingénieurs, dans les classes préparatoires. Pour entrer dans les écoles d'ingénieurs, tu dois faire d'abord ce qu'on appelle les classes préparatoires. Il ne faut pas craindre les classes préparatoires, parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est sûr, mais on est encadré, on est poussé à travailler, donc il n'y a pas énormément d'échecs. Donc tes classes préparatoires, c'est 2 ans. Et puis après, tu intègres, tu as des concours et tu intègres une école d'ingénieur. Et l'école d'ingénieur, c'est 3 ans. Tu vois que tu passes par la fac, 3 plus 2, ou que tu passes par les écoles d'ingénieur, 2 plus 3, c'est pareil. Donc tu es 5 ans après le bac. Et à partir de là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un doctorat. Un doctorat, mais là, il ne faut plus voir ça comme des études, parce que en fait, tu n'as plus du tout de cours. Tu es dans un laboratoire de recherche. Et tu as ton directeur de recherche qui va te dire de travailler sur tel sujet ou tel autre. Et ça, ça dure 3 ans et tu es payé. Donc tu n'as plus besoin, tu n'es pas payé beaucoup, hein, tu es à peine plus que le SMIC, mais tu es payé. Donc tu n'es plus obligé d'être chez papa-maman. Donc c'est des études comme tu les envisages, c'est 5 ans. Mais pour être chercheur, pour être astrophysicienne, il faut 3 ans d'études pour passer ton doctorat. Et donc, tu deviens docteur en astrophysique, parce que docteur, ce n'est pas que en médecine, hein, il y a toutes les branches. Et après, tu dois avoir un poste au CNRS ou dans les universités. Mais il ne faut pas que ça te fasse peur, parce que plus tu progresses, plus tu fais des choses qui t'intéressent. Quand tu fais des choses qui t'intéressent, ben, tu ne trouves plus du tout ça ennuyeux.
Merci. 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 Merci.